En direct jusqu'à 22h. Merci d'être là. Et à l'autre bout du spectre du sujet que nous avons abordé en début d'émission, c'est-à-dire une naissance, une entrevue avec une jeune femme de 27 ans qui a accouché une première fois dans sa vie de la belle Béatrice vendredi dernier. Mais quand on dit que la vie continue, ben la mort, ça fait partie de la vie. Et au-delà du coronavirus, il y a des gens qui continuent de naître à chaque jour au Québec. Il y a des gens qui continuent de nous quitter après à la fin de leur vie. En moyenne, selon les statistiques de 2019, c'est 185 décès par jour. Mais qu'est-ce que c'est de connaître ou de vivre une fin de vie en période de coronavirus? Ben, pour la personne concernée, pour son entourage, la famille, ses proches, il n'y a plus rien qui est pareil en ce moment. Et nous sommes privilégiés ce soir qu'une personne qui a vécu tout récemment la perte d'un proche accepte de nous en parler, de partager son expérience avec nous. Il s'agit incidemment de la conjointe d'un collègue de travail de notre station 107.7 à Sherbrooke, Mark Bryson, Chantal Abel, qui est au bout du fil. Bonsoir, Chantal.
Bonsoir, Mario.
Chantal, toi, ben, je faisais le lien avec Marc parce que c'est comme ça qu'on a su, en voyant l'avis de décès sur Facebook, que vous viviez un deuil. Tu as perdu ton père, Julien Abel, la semaine dernière, mercredi passé, le 25 mars, à l'âge de 93 ans et 9 mois. Et c'est pas du tout un décès qui est né, qui est lié au coronavirus. Il était carrément en fin de vie, là, tout simplement. Et Chantal, dans un premier temps, mes condoléances à toi et toute la famille. Comment vivez-vous ces derniers jours-là? Comment tu as vécu ces derniers jours?
C'est premièrement merci. Deuxièmement, on les a vécus quand même très sereinement parce que mon père a été lucide et conscient jusqu'en dernier. Le 12 mars, quand on a rencontré les soins à domicile où l'infirmière pivot, devrais-je dire, pour voir s'il s'en allait en foyer parce qu'il habitait encore seul dans sa résidence et conduisait encore son camion à là 3 semaines, tout ça. Mais là, je pense que le cancer avait repris et la fin de vie approchait et il le savait. Et le 12 mars, c'est ça, je lui ai fait la promesse de rester avec lui à la maison, à son domicile. Et c'était le plus beau cadeau que j'ai pas pu me faire et que j'ai pas pu lui faire parce que quelques jours après, tous les visites dans les CHSLD, les foyers étaient terminés. Donc, ça aurait été horrible pour lui qui avait toujours été entouré de sa nombreuse famille.
C'est drôle, tu t'étudies qu'il avait senti ça venir, les conditions qu'elle a changé. Je sais qu'on, tu sais, quand on vit un deuil comme ça, des fois on tente d'interpréter ça dans bien des sens, mais en tout cas, s'il y avait à nous quitter, ça se dit mal de même, mais est-ce qu'il a quitté au bon moment selon toi?
Exactement, il l'a dit lui-même. Il a dit jusqu'à ses dernières paroles, j'ai été chanceux toute ma vie. Et là, avec tout ce qui se passe autour, je suis chanceux de partir là. Et c'est wow. Ça que je veux. Je veux pas étirer. J'ai été chanceux, choyé et tout ça. Et je suis encore à la maison parce que je peux mourir chez moi, dans son environnement, avec sa famille.
Wow, quelle sagesse. Parle-nous de ton père un petit peu, Chantal. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie quand il travaillait? Il y a eu bien des enfants avec ta mère également. Parle-nous un petit peu de lui.
Mon père, moi, j'ai un petit milieu rural, agricole. Mon père a toujours été un passionné de chevaux. Sa cabane à sucre, il était agriculteur jusqu'à, je pense que vers l'âge de 60 ans. Après, il a pris sa retraite, mais sans jamais arrêter. Il a fait aussi maire de Fortierville, la petite municipalité, pendant des années.
Ah oui?
Oui, il aimait beaucoup la lecture. Il était toujours, toujours très à jour. Il avait sa télé avec toutes ses nouvelles, son journal à tout le Nouvelliste depuis X temps. Il était à l'affût de tout. Il savait tout ce qui se passait. Mon chum descendait le voir. C'est sûr que ça parlait hockey, puis ça parlait, il connaissait tout le monde. Et Il était quand même spécial, le père.
Ah oui?
Oh oui, c'était quelqu'un qui avait beaucoup, beaucoup d'entre-gens, beaucoup d'amis, un franc-parler, mais qui était une personne qui était adorable, c'est sûr, c'est mon papa, mais non, c'est une personne qui était très significative pour ses 6 enfants, ses 19 petits-enfants, et le 22e arrière, malheureusement, ne pourra pas l'avoir vu. Il a vu la 21e qui est née au mois de février, mais la vie fait ainsi qu'il était temps pour lui de nous quitter selon ses dires.
Et Chantal, le fait que tu sois je ne sais pas si je l'ai mentionné dans mon introduction, mais que tu sois une infirmière de carrière, dans quelle mesure ça t'a aidé à pouvoir l'accompagner jusqu'à son dernier souffle?
Je pense que ça l'a fait toute la différence. Oui, je suis infirmière de profession. Ça fait quand même une vingtaine d'années que je suis au bloc opératoire, mais j'ai assisté à des décès quand j'étais sur les unités. Et j'ai toujours trouvé, c'est un petit peu bizarre à dire, mais beau aussi, le départ de quand c'est pas dans des souffrances atroces ou quand c'est pas, on parle pas d'enfants, là, de cancer, tout ça, mais quand la famille est autour, quand la personne est prête, quand tu as un accompagnement que tu peux faire, je crois que c'est des quand même, ça fait partie de la vie. Et c'est sûr que pour moi, avec le lien que j'avais avec mon père, qui était un lien quand même assez spécial, c'est sûr, mes frères et sœurs vont vous dire c'est son bébé. Oui, à 50 ans, j'étais encore le bébé de mon père. Mais comme pour les soins d'hygiène, tout ça, c'était que Chantal qui pouvait le faire. Puis c'était correct, les autres le comprenaient très bien et surtout n'auraient pas voulu être à ma place. Mais pour moi, c'était naturel, c'était beau. Et on a vécu des beaux moments en dernier, tous les deux ensemble.
Fait que tu pourrais dire que ton père a eu une belle vie, puis il a eu une belle fin de vie aussi.
Oui, très belle. Puis comme je disais, il a toujours dit qu'il avait été chanceux toute sa vie, mais il l'a été vraiment jusqu'à la fin, parce que c'est ça. Il voyait que beaucoup de personnes âgées, seules ou malades, étaient tout seul dans les CHSLD, sans visite, les soins palliatifs, les personnes en fin de vie qui pouvaient pas avoir de personne à leur côté, ça devait être atroce, là. Pour nous, ben, moi, j'avais à gérer quand même la visite dans le sens que les arrière-petits-enfants n'ont pas eu le droit de venir et je pense que c'était normal et tout le monde le comprenait très bien. On a fait beaucoup de FaceTime avec mon père, les petits-enfants qui étaient à risque, comme moi, mon fils était en quarantaine à Montréal, donc il a fait FaceTime avec son grand-père 2-3 fois avant qu'il décède. Les autres, j'ai un filleul qui est pharmacien, lui aussi, il se trouvait trop à risque pour descendre. Donc, vive la technologie dans ces cas-là.
Oui, absolument. Chantal Labelle qui a perdu son père la semaine dernière après une belle vie, puis ça s'est bien terminé tel qu'elle nous le raconte. Mais Chantal, pour tous ceux, toi qui es témoin comme infirmière, mais aussi comme fille de ton père et d'avoir été dans le CHSLD, d'avoir vu peut-être d'autres gens qui seront prêts bientôt de leur fin de vie, as-tu des pensées ou des conseils à partager aux centaines de familles qui vont continuer de vivre ça au jour le jour, là, COVID ou pas COVID, là?
Mais c'est toujours d'essayer d'être le plus présent possible avant. Ce serait d'en profiter quand on est vivant, justement. Et avec les technologies d'aujourd'hui, je pense qu'on peut se permettre de se voir plus souvent et pas juste se parler. On peut se voir, on peut échanger beaucoup, on peut souper ensemble avec les FaceTime maintenant que ça fait que, oui, on est un écran, mais de leur donner notre temps toujours. C'est à peu près ce que je peux dire. J'ai pas. Puis nous, ils voyaient là, avec la fin de vie qui s'en venait que ça serait changé pour les funérailles. Ils voyaient tout ça, là, que hop, je ne serais pas exposée comme prévu, parce que là, on ne parle pas de funérailles avant juillet. Que la maison funéraire nous a dit, on verra. Mais c'est.
Est-ce que c'est difficile, ça? Est-ce que c'est difficile, ça, Chantal, de devoir reporter les funérailles? Puis des centaines de familles au Québec vont vivre la même chose. Comment vous le vivez, vous autres, dans la famille des Bryson, Abel et tout l'entourage?
Bien, je pense que, justement, en étant conscient avant qu'il meure de tout ça, il nous a dit, bon, ben c'est correct, on va changer mes plans funéraires parce que ça se passera pas comme ça. Donc, ça a été incinéré à la place d'exposer et enterrer pour qu'on puisse avoir l'urne avec nous dans les prochains mois pour qu'il y ait quand même un souvenir tangible. Mais il était comme, ben je vous ai toutes vues avant, c'est ça le principal. Puis, regarde, on fait avec, on peut pas faire grand-chose, faut être résilient.
Tellement, tellement. Eh bien, Chantal, merci. Juillet, donc, prochain pour les funérailles. Puis ça donne une idée aux autres familles qui vont vivre ça, là. Des fois, on le sait quand ça va arriver, des fois, on le sait pas. Qui vont vivre ça dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors, encore une fois, au nom de tous les gens qui m'entourent ici au 98.5 et dans le réseau, parce que Marc est un collègue, bien sûr, permets-moi de vous exprimer nos plus sincères condoléances, sincèrement.
Merci beaucoup à vous.
Merci Chantal, au plaisir. Salutations à ton conjoint Marc et bon courage pour la suite des choses.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci, au revoir.